Courant porteur. Initiative et résilience d'un territoire.
Un temps pour découvrir des personnes, des projets et dynamiques qui se passent maintenant et à côté de chez vous.
Un temps pour décrypter des sujets de fond, comprendre et donner du sens.
Une émission mensuelle présentée par Elisabeth Lucan et Ludovic Jiquel, cofondateurs de Sonessence.
Une association qui accompagne la création d'entreprises dans le Val-de-Saône. Bonjour toutes les auditrices et les auditeurs de Calade Ma Radio, bienvenue dans l'émission Courant Porteur. Bonjour Ludovic.
Bonjour Elisabeth.
Alors aujourd'hui, au sommaire de l'émission, on présente une initiative, mais qui n'est pas qu'une initiative. C'est celle d'Émilie Goutel du Centre Social Archipel. Bonjour Émilie.
Bonjour Elisabeth. Bonjour Ludovic.
Bonjour Émilie.
Au sommaire de cette émission, eh bien du coup, on va parler de toi Émilie, de ton parcours, comment tu es devenue directrice de ce centre social et qu'est-ce qui a émergé de ce centre social qui nous a amené à travailler ensemble.
Tout à fait.
Et sur la deuxième partie de l'émission, sur notre rubrique de fond, eh bien, un sujet qui est lié en fait, c'est alors le pouvoir d'agir, ou on dit empowerment aussi. On vous en dira plus tout à l'heure. Alors pour commencer, Émilie, est-ce que tu veux bien nous dire un peu qui tu es et
oui.
ton parcours ?
Oui, alors j'ai donc 45 ans, je suis mariée et j'ai deux enfants, deux grands enfants, des ados. Et j'habite dans les monts du Lyonnais, donc le petit territoire entre Lyon, Roanne et Saint-Étienne, territoire rural. Je suis originaire des monts du Lyonnais et je suis revenue y vivre il y a quelques années. Enfin, il y a un petit bout de temps quand même déjà. Et je vous explique un peu mon parcours.
Allez.
Du coup, ouais. Ok. Moi, j'ai toujours été intéressée par les sciences sociales, l'humain. Et du coup, j'ai commencé mes études dans la géographie, le tourisme, etc. Et finalement, un petit peu par hasard, j'ai connu le monde des centres sociaux, puisque mon premier boulot, quand j'avais 23 ans, sortant juste de mon master, j'étais embauchée dans un centre social et pour développer des projets, pour donner un peu un nouveau souffle au centre social et aussi prendre la suite de la directrice qui partait à la retraite. Mais bon, 23 ans, c'est un peu jeune quand même. Et donc, j'ai pas continué.
C'est toi qui as trouvé que tu étais trop jeune.
Oui, peut-être. Mais bon, j'ai bien fait, le parcours est très bien comme ça. Du coup, après, j'ai changé. Donc, c'était dans l'Allier, ça. Et j'ai suivi mon compagnon, qui est aujourd'hui mon mari, qui était muté dans la Loire. Et là, j'ai été embauchée dans un cabinet de développement territorial en tant que consultante. Et donc, notre mission, c'était vraiment d'accompagner les territoires à monter des projets de territoire, évaluation, etc. Donc, c'est quelque chose qui restait quand même assez conceptuel, super intéressant intellectuellement, mais assez conceptuel. Et c'était donc une SCOP, et j'ai assez vite été associée à la SCOP, mais la structure restait quand même assez pyramidale avec un directeur d'études et puis des consultantes. Donc au bout de 12 ans, je suis quand même restée 12 ans, j'ai appris plein de choses et j'ai pas mal bougé. Mais au bout de 12 ans, j'ai eu envie de un peu plus m'ancrer localement, de voir avoir un impact un peu plus direct et concret sur mon territoire et sur les gens. Voilà, j'avais envie de un peu moins de comment dire
théorie.
Ouais, de théorie. J'allais
dire de lancer.
J'allais presque dire de bullshit, mais.
Ah ben non, je pense que tout le travail de conception, il est important quand même.
Ouais,
mais c'est vrai qu'on a
parfois,
envie de mettre la main à la pâte.
J'avais envie d'aller plus loin, en tout cas. Voilà, et de voir vivre les projets. Et donc, du coup, j'ai entendu parler d'une offre d'emploi de direction de centre social, pas très loin de chez moi. Donc, j'ai postulé et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ça fait déjà 8 ans que j'y suis et je suis vraiment tombée amoureuse de ce réseau des centres sociaux. C'est vraiment. Enfin, j'en parlerai peut-être un peu plus loin, mais c'est vraiment un super réseau, une super philosophie complètement liée au sujet que vous avez aujourd'hui sur le développement du pouvoir d'agir. Voilà. Et donc, directrice depuis 8 ans, et je crois que je ne me suis jamais ennuyée une seule fois, parce que c'est un travail qui est très riche. On passe de l'humain au matériel, aux finances, au théorique aussi quand même. Et du coup, le vrai tournant que j'ai eu dans ce travail, c'est une formation et ça fait le lien aussi avec ce qu'on va voir après, une formation qu'on a fait en équipe il y a quelques années autour de l'animation de débat et au cours de laquelle on nous a parlé des rapports de domination, des rapports sociaux de domination et en quoi finalement on n'était pas tous et toutes égaux et comment on pouvait nous en tant que professionnels des centres sociaux agir pour ça. Voilà, donc ça a vraiment été un tournant et pour moi et pour mes collègues, je pense, et pour le centre social. Et voilà, ça fait partie complètement aujourd'hui de nos manières de travailler.
Du coup, la question suivante, c'est un peu le point de bascule. Pour toi, t'engager dans ce projet-là, mais tu as déjà répondu, donc j'ai envie de transformer un peu cette question pour parler du pourquoi directrice d'un centre social et peut-être le point de bascule pour cette nouvelle activité aussi que vous avez lancée.
Ouais, tout à fait. Effectivement, moi, en fait, ça fait quelques années qu'autour de moi, on me dit « Ah, tu devrais peut-être penser à la formation », parce que j'adore, moi, monter des animations, j'aime rencontrer des gens, j'aime transmettre. Voilà, ça faisait partie des choses qui trottaient un petit peu dans ma tête. Et puis, il y a en 2023, on nous a annoncé une grosse réforme dans notre branche professionnelle, qui impliquaient du coup des revalorisations salariales qui étaient tout à fait méritées, hein, y a pas de souci avec ça, mais qui ont mis l'ensemble des centres sociaux en grande difficulté financière. Et là, je me suis dit, bon, soit je pars avec mon petit projet sous le bras et je le fais toute seule, soit je l'utilise en fait pour mon centre social et du coup pour mon territoire. Donc voilà, j'ai proposé à mes collègues et à mon conseil d'administration qu'on monte une antenne de formation. Et il se trouve que les planètes étant alignées à ce moment-là, j'ai deux collègues à moi qui étaient en train de réfléchir depuis à peu près un an au même projet. Donc là, on s'est dit, bon, allez, il faut qu'on lance le truc. Et on travaille depuis un petit moment donc, sur l'émergence de cette antenne de formation qui doit nous permettre et de gagner un nouveau souffle économique et de développer de nouveaux projets et surtout de transmettre notre manière de travailler.
Oui, tu parles effectivement d'un besoin d'autonomie financière et puis de la rencontre effectivement de trois envies communes. C'est drôle, cette conjonction d'envies. Et je sais que dans le projet Interpelle, il y a aussi une envie de diffuser vos pratiques d'éducation populaire.
Oui. En fait, nous, sur notre territoire, c'est assez régulier qu'on nous questionne sur notre manière de travailler. Par exemple, comment on anime des assemblées générales participatives, ludiques, qui sont vraiment très, très sympas.
Ouais, donne-nous un exemple, parce que je crois que c'est vraiment fun.
Ah oui. Alors, peut-être...
Le top chef.
Voilà, l'année dernière, on a fait un vrai top chef. Alors, l'idée, en fait, c'est vraiment que les gens participent à l'Assemblée Générale, ils soient acteurs et actrices, et qu'ils découvrent par eux-mêmes, en fait, le bilan, en fait. Voilà, donc il peut y avoir ça. On avait fait des assiettes. Enfin, voilà, c'était assez rigolo. Cette année, on a fait une murder party, donc où une présidente a été assassinée en plein milieu de son rapport moral. Et il a fallu faire une enquête, aller voir toutes les collègues pour trouver qui pouvait être l'assassin. Moi, par exemple, le rapport financier, parfois, je l'anime en bingo. Donc, je fais des équipes, un bingo, ça crie, ça rigole. Et c'est vraiment des belles assemblées générales. Voilà, donc ça, c'est effectivement un peu notre manière de travailler, de mettre du ludique et du participatif dans ce qu'on fait pour que tout le monde ait sa place aussi, quoi. Mais après, on a aussi des personnes qui nous ont régulièrement demandé des conseils, par exemple pour animer des collectifs de bénévoles, pour aussi animer en maison de retraite, en EHPAD. Voilà, donc on a souvent des réponses, des demandes auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas le temps et que c'était pas complètement notre mission première, même si c'est super intéressant.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les méthodes que vous utilisez avec vos publics, il y a des gens qui y goûtent et qui trouvent ça tellement chouette qu'ils avaient envie de pouvoir le vivre dans leurs entreprises, dans leurs équipes à eux. Et jusqu'à présent, vous n'aviez pas cette réponse-là.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que même moi, je pense par exemple à mon mari, qui travaille dans un grand groupe. Souvent, quand il revient de formation ou qu'il revient d'une réunion un peu importante, il me dit, mais bon sang, mais il faudrait vraiment que vous veniez expliquer à mon entreprise comment il faut faire pour animer des formations qui soient dynamiques, où on ne s'ennuie pas, où tout le monde a la parole, quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'on a notre place dans l'écosystème de la formation.
Super, et je crois qu'il y a encore un autre élément dans ce projet qui est particulier, qui est chouette, et que vous avez eu envie de vivre toutes les trois. Vous aviez cette même envie de gouvernance, en fait, Tu peux nous expliquer?
Oui, tout à fait. Et ça fait un peu lien avec ce que je disais en intro sur le fait que j'ai travaillé en SCOP et que c'était quelque chose qui restait quand même assez pyramidal. Là, nous, le Centre social, actuellement, c'est un système assez classique. Hein, c'est une association, donc il y a un conseil d'administration, une direction, donc moi, et puis des salariés, entre guillemets, en dessous. Mais c'est pas comme ça qu'on le vit au quotidien. Mais du coup, ce qu'on avait envie, c'était de pouvoir expérimenter une autre manière de diriger ce projet. C'est-à-dire que ce soit pas moi la tête du truc, mais vraiment le trio, les trois collègues qui ont créé ça, qui ont mis du temps, de l'énergie, de leurs idées, de leurs personnes, qu'elles puissent avoir autant de voix que la direction, voire que les administrateurs et les administratrices. Donc nous, à la base, on a pas mal hésité. Est-ce qu'on montait une antenne autonome juridiquement? Et finalement, on la garde au sein du centre social, mais on va en profiter en fait, pour expérimenter un petit peu autrement la gouvernance au sein du centre social.
Donc à trois au même niveau?
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu peux juste nous parler de tes deux collègues? Je crois qu'il y en a une, elle est référente jeunesse.
Oui. Oui, tout à fait. Référente jeunesse, qui est arrivée à peu près en même temps que moi au centre social, qui a beaucoup d'idées autour de la formation, qui fait déjà, par exemple, des formations BAFA qui sont très, très, qui sont excellentes. Et puis, donc, ma collègue aussi qui travaille avec les seniors, donc référente senior et activité socioculturelle, et qui, elle, a vraiment le sens le souci de que chacun prenne la parole, que chacun soit écouté. Donc, avec leurs expériences de terrain et des jeunes et des seniors, ça donne quelque chose d'assez mixte et où on peut, je pense, avoir des réponses qui soient adaptées un peu à tous les publics.
Pour nourrir un petit peu nos auditeurs, est-ce que tu aurais deux, trois formations que vous avez mis au catalogue là?
Oui. Alors on en a lancé une première, on en a expérimenté une première qui s'appelle Animer le travail collaboratif, qui s'est très bien passée, où en fait les participants, les participantes apprennent tout un tas de jeux, d'outils qu'ils peuvent ensuite mettre en place dans leur réunion, dans leur animation de réunion, mais aussi la posture, vraiment la posture, comment on accompagne un groupe, quelle place on a, quelle place ont les gens, donc ça c'est une première formation. On a aussi celle sur l'Assemblée générale participative, puisque c'est notre...
Forcément.
Voilà, c'est notre petit truc. Et puis, on est aussi en train de travailler sur l'animation auprès des publics seniors. On a aussi des modules, des espèces de petits modules qu'on voulait proposer aussi aux entreprises sous format atelier. Donc, ce n'est pas forcément des formations, c'est plutôt des ateliers pour... Par exemple, pour les comités d'entreprise, les CSE. Donc, on en a un sur les réseaux sociaux. Et on en a un qu'on expérimente ce soir, d'ailleurs, sur l'intelligence artificielle. Donc, tout ça, c'est de voir comment, en fait, à travers ces nouveautés, on peut mêler les différents regards, du fait qu'on ait des regards avec des publics assez variés. Voilà, comment se rencontrent les gens autour de ces choses qui nous arrivent, quoi.
Et en quoi l'éducation populaire parle d'IA?
Oui, c'est une bonne question. Déjà parce qu'elle est complètement ici, déjà de partout, parce qu'on aimerait que les gens puissent savoir un peu plus ce que c'est pour pouvoir, d'une part, l'utiliser correctement, pouvoir s'approprier l'outil et en tirer ce qui peut les aider. Et en même temps, aussi avoir une forme de mesure, de comment on peut aussi utiliser ça de manière mesurée et de manière responsable. Mais c'est aussi un outil qui fait du lien, qui peut faire du lien, en fait, et qu'on attrape tous d'une manière différente. Et c'est là qu'on voit notre place, en fait.
Oui, c'est sur la manière d'attraper.
Oui, c'est ça.
Parce que qui dit éducation populaire et dit des manières que vous avez d'accompagner des publics très divers, à la fois en précarité, mais pas que.
Pas que, voilà.
Vraiment des gens de chez nous, en fait. Et là, vous êtes en ruralité.
Oui. Voilà, et puis, je suis en train de me dire sur... Pardon, je te coupe. Du coup, sur ce module-là, la force aussi, c'est qu'il est construit donc, par mes deux collègues, là, dont on vient de parler, et par un bénévole... qui est un jeune retraité, mais qui est super doué autour de toutes ces questions-là. Donc c'est quelque chose qui est fait à trois têtes et 6 mains, et du coup avec du bénévolat, du salariat, de l'habitant, voilà.
C'est ça, à chaque projet fois collectif. Vous embarquez...
Oui, on embarque toujours des bénévoles dans ce qu'on fait.
Oui, des ouais. bénévoles qui sont des habitants, qui contribuent, qui en même temps grandissent en compétences. C'est ça qui est vraiment très chouette.
Tout à fait.
Les cibles, en fait, à qui ça s'adresse ?
L'antenne de formation ?
Ouais.
Oui. Alors, on va commencer à s'intéresser d'abord aux associations de notre territoire, parce qu'en fait, on a des demandes. Donc, voilà, on va... Déjà,
servir le besoin, oui.
Voilà, déjà servir le besoin. Et potentiellement, ce qu'on aimerait, c'est justement élargir ça aussi aux entreprises. Parce qu'on fait le pari que notre manière de travailler, elle peut aussi apporter plus d'humanité, plus de joie aussi, en fait. Hein. N'ayons pas peur des mots. Dans les entreprises, en travaillant avec des outils qui soient sympas, mais qui soient aussi profonds. Voilà, donc c'est un peu ouvert quand même.
Et les premiers retours de vos partenaires sont très positifs, à ce que je crois.
Oui, alors on est effectivement, on a trois grands financeurs qui nous soutiennent pour l'émergence de ce projet. La CAF, la Caisse d'allocation familiale, la MSA et à travers notre communauté de communes, le programme européen Leader qui soutient l'émergence de projets innovants. Donc on est vraiment très contente de cette réception, de cet accueil. Et voilà, ce soutien va nous permettre de consacrer un peu de temps, parce qu'il y a quand même un peu de travail quand même, en plus de ce qu'on fait déjà, pour faire sortir l'antenne.
Je crois que tu n'as pas nommé comment elle s'appelle ? Cette antenne.
Ah oui, c'est vrai, elle s'appelle Interpel. Donc on cherchait un nom qui fasse écho au nom de notre centre social, qui s'appelle Archipel. Mais comme on décline beaucoup dans le centre social, archi-marrant, archi-ludique, archi-jeune, archi-vieux, on avait envie de le prendre à l'envers et de prendre la fin de Archipel, donc Pel, et on a choisi Interpel, c'est-à-dire Interpel, qui fait réagir, qui fait se poser des questions...
Et comme quoi on peut faire de l'intrapreneuriat, y compris dans des centres sociaux.
Oui, tout à fait.
C'est magnifique.
Merci pour ça. Je vais peut-être redonner très rapidement l'adresse du centre. On le mettra en référence, évidemment. L'adresse internet, hein. C'est www.centresocial-archipel.fr.
Tout à fait.
On élargit un peu le cercle. Qu'est-ce qui t'anime dans l'écosystème local ?
Alors, mon territoire, les Monts du Lyonnais, déjà, je trouve que c'est un territoire très dynamique. Il y a une vie associative incroyable. On a vraiment beaucoup de chance. Et globalement, je trouve que le rural est souvent un peu sous-coté. Parce qu'on imagine toujours que, voilà, qu'il est pauvre en offre, qu'il s'y passe pas grand-chose.
C'est la campagne, quoi.
Voilà, c'est ça, alors que c'est très riche. Donc, ce qui m'anime, c'est vraiment de faire émerger les richesses du territoire, tout simplement. Et voilà, de faciliter les rencontres, les liens entre les gens. Voilà, je suis assez fière de mon territoire.
Merci. Est-ce que tu peux dire quelques mots également sur ce que tu as vécu avec Sonnaissance ?
Oui, bien sûr. Alors... Quand on s'est rendu compte avec mes deux collègues, donc Marie et Cécile, qu'on avait la même idée, on s'est dit que ça pouvait être quand même intéressant qu'on travaille un peu sur nos idées personnelles à la base, puisque moi, pour ma part, c'était vraiment une idée personnelle. Elles étaient déjà un petit peu en binôme là-dessus. Et donc, on a d'abord fait un travail avec Sonnaissance sur le programme Entrepreneur de sa vie pour qu'on puisse... D'abord, poser un peu tout ça et en fait être sûr aussi après de ce qu'on voulait faire, de ses idées personnelles, de ses envies personnelles. Et ensuite, donc on a suivi toutes les trois ce programme-là avec nos CPF. Donc voilà, chacune a vraiment mis de l'énergie là-dedans.
Et avec les deux référents différents, comme ça on pouvait mixer aussi nos énergies,
oui,
à nous avec vous.
Tout à fait. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail individuel, on a rassemblé un peu nos différentes envies dans un accompagnement collectif. Et aussi, oui, je voulais préciser pourquoi j'ai aussi choisi Sonnaissance, pourquoi on a choisi Sonnaissance. C'est parce qu'aussi, on avait envie de décaler un peu notre regard, parce qu'on a notre regard social, centre sociaux, qui est vraiment plein de valeurs et que j'adore. Mais on n'est pas des entrepreneuses à la base. Et j'avais envie qu'on nous aide à regarder un peu autrement. Et c'est vraiment ce qui a eu lieu. Voilà. Et du coup, donc, Son Essence nous a ensuite accompagnés en groupe sur plein d'entrées, l'étude de marché, écrire le pitch. Moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'un pitch à la base. la viabilité économique et l'accompagnement vers la certification Calliope, qui est un gros morceau pour nous aussi. C'est la certification qui va nous permettre ensuite d'être organisme de formation. Du coup, c'était vraiment important pour nous de vraiment prendre le temps de concevoir, de poser tout ça avant vraiment de le mettre en œuvre.
Ouais, quand on vous a rencontré, on a déjà accompagné quelques petits collectifs. Et c'est vrai qu'on trouve ça hyper riche de à la fois conduire les envies individuelles. Et puis, ça permet de poser, en fait, le projet en soi. Est-ce qu'on est OK pour être entrepreneur, de ce que ça implique, etc., avec la vie à la maison, avec la vie pro. Et puis, de faire émerger tout ce qu'on a envie pour ce projet, en dehors de la discussion avec les autres. Mm-hmm. Donc, ça peut aller dans d'être les symboles du logo, les couleurs. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme valeur ? Tu parlais du pitch. Bah, comment on l'exprime, soi, déjà ? Qu'est-ce qu'on a envie comme modèle économique, voilà, toutes les questions aussi financières. C'est pas toujours évident, en plus, quand on est directrice salariée, là, pour le coup. Mais de poser qu'est-ce que va être la prochaine rémunération. Est-ce que c'est du salariat ? Vous étiez sur une structure juridique, au début, à part. Et en plus, avec cette idée de gouvernance partagée, quoi. Mmh. Où vous étiez toutes les trois au même niveau. Donc, il y avait pas mal de questions qui nous semblaient aussi à nous pertinents d'adresser individuellement. Avant de réunir tout ça avec toute cette matière, c'était super de mettre en parallèle vos trois travaux pour en faire émerger à la fois cette gouvernance, construire le nous, les valeurs communes, et puis tous les éléments que tu as dit, y compris aussi le catalogue de formation, tout ce qui permet en fait de l'amener à terme.
Et je pense que c'était vraiment nécessaire de prendre ce temps. Je me rends compte aujourd'hui à quel point ça a été important. Parce que quand même, on partait de plein d'idées, comme j'ai dit, un contexte, pour ma part en tant que directrice, d'un contexte économique compliqué. Il y avait pas mal de choses qui m'étaient passées par la tête. Et moi, en tout cas, personnellement, l'accompagnement individuel, dans ce que je retiens, c'est qu'il m'a permis de vraiment me poser et de me dire, OK, en fait, j'aime vraiment, vraiment ce que je fais. c'est marrant, hein, mais de me dire, finalement, de prendre le temps d'explorer ailleurs tout ça, de réfléchir, je me suis dit, non, mais en fait, vraiment, j'adore ce que je fais. Et ça, c'est vraiment important. Et du coup, de se dire, OK, c'est vraiment là que je veux mettre l'énergie, et c'est dans cette antenne-là que ça va se passer, quoi.
Et là, on est quasiment à la fin de notre accompagnement, parce qu'il reste une journée,
oui.
C'est notre journée de clôture.
Tout à fait, la semaine prochaine.
C'est la semaine prochaine. Est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes, parce que vous avez fait plein d'avancées.
Oui, le catalogue de formation se construit. Et c'est là-dessus qu'on va avoir besoin de prendre du temps pour continuer à l'alimenter. On a aussi un logo qui est pratiquement terminé, une charte graphique. Et surtout, mais le gros morceau là qui nous occupe en ce moment, c'est cette fameuse certification Calliope dont je parlais. Et je pense que tous les gens qui ont déjà passé cette certification savent comme c'est lourd, pour le moins qu'on puisse dire.
Structurant,
oui.
Qualité.
Voilà, voyons le bon côté. Et on a très hâte de la terminer, comme ça après on va vraiment être opérationnel. Donc on a vraiment... Et donc ce que je disais, on a fait cette première formation de test.
Et oui.
Qui a reçu de très bons échos. On est très contente.
Super.
Ouais. Donc voilà, on est prête.
Est-ce que tu dis pas, mais parce que c'est ton quotidien, c'est que toi, en parallèle, tu as convaincu aussi les membres de ton conseil d'administration, c'est ça ?
Oui.
Tu as monté des dossiers de financement, as obtenu même.
Oui, voilà. Je suis très contente de ça. Oui, c'est vrai que c'est, en fait, comme c'est quand même décalé un peu le regard du centre social et son... Ça reste dans son ADN, moi je suis convaincue que ça reste dans son ADN de faire de la formation, comme je disais, de transmettre nos valeurs. Mais c'est un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. Il a fallu convaincre, ouais, il a fallu expliquer, emporter, emmener. Et y compris les financeurs, mais qui du coup ont compris, je pense, vraiment assez vite l'intérêt de la chose. Mais oui, il y a eu tout un travail de fond derrière, quoi.
Comment tu te vois dans 5 ans, Émilie ?
Alors oui, ça c'est une question qui est difficile pour moi. J'ai toujours un peu de mal à me projeter sur ce genre de choses parce que je sais que je peux changer d'un coup. Je peux changer sur un coup de tête. Mais bon, on va dire que, comme ça, je dirais que j'ai beaucoup investi personnellement sur ma vie professionnelle. J'ai passé quand même beaucoup de temps dans mes deux vies pro que j'ai eues. Je crois que dans 5 ans, j'aimerais bien avoir un petit peu ralenti la densité professionnelle pour avoir un peu plus de temps perso. Voilà. Et j'aimerais que cette belle antenne qu'on est en train de créer, Interpelle, puisse rayonner. Que ce soit, voilà, qu'on ait pu former, emmener, diffuser, et pourquoi pas que ça rayonne sur la France et pourquoi pas sur le monde. Soyons ambitieux.
Dit-elle en disant qu'elle veut un équilibre où il y aura un peu moins de travail.
Oui, mais c'est pas forcément. Ce sera peut-être pas moi, ce sera peut-être toutes mes collègues qui seront
charmants. Voilà. Donc c'est que ça se prépare en fait tout ça.
C'est ça.
Merci beaucoup, Émilie. Deuxième partie de l'émission, la rubrique de fond. Est-ce que le monde a besoin d'entrepreneurs ? Ou aurait-il besoin d'entrepreneurs de leur vie ? Je me posais cette question ce matin en réfléchissant à notre mesure d'impact sur le territoire et puis en préparation de l'émission, bien sûr. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on nous pose la question de nos résultats. Alors, on a fêté nos 2 ans il n'y a pas si longtemps, on a clôturé nos comptes, etc. Et en tant qu'incubateur et même animateur ou opérateur de territoire, on s'attend, c'est peut-être une projection de ma part, à ce qu'on réponde en termes d'entreprises créées, d'emplois créés.
De PIB peut-être même.
Pourquoi pas, effectivement, en tout cas en termes de CA ouais, et de rentabilité. Oui, mais voilà, en fait, moi, à mon sens, et je crois qu'on le partage, Ludovic, ce n'est pas notre seul résultat et c'est même pas le premier auquel je pense. Alors si, peut-être parce que c'est une évidence, mais malgré tout. À mon sens, le résultat qui me touche le plus et qu'on obtient, c'est comment on va permettre à une personne de croire dans sa capacité à être au monde tel qu'elle est, de matérialiser un projet pro épanouissant et utile, et de trouver la forme que ça va prendre, ce projet entrepreneurial. Et si on regarde les sorties qu'on a sur notre programme, en fait, on a des entrées en formation, on a des retours, entre guillemets, au salariat, on a des bébés en cours, et puis évidemment, des entreprises créées. Alors, j'ai volontairement mis l'entreprise créée à la fin, juste pour décaler le regard, justement, comme tu dis, Émilie, de manière fort juste. Et aucune de ces sorties n'est évidemment un échec, ni de la personne, ni de nous. Ce qui a été posé, ce qui aura été posé et installé, c'est de la confiance, de l'estime, de la conscience de soi. Je vais y revenir. Mais ce qui est également posé et installé, c'est du savoir. Autant dans l'équilibre personnel qu'un équilibre financier. Et puis de l'expérimentation et du concret sur une stratégie de création de leur entreprise. Et si je reviens très rapidement justement sur cette question de confiance, d'estime et de conscience de soi, souvent on ne sait pas la différence entre les trois. Et ce qu'il faut savoir, et c'est souvent plus facile, peut-être pas de le reconnaître pour certains, mais que la confiance en soi, c'est quoi ? C'est la confiance dans sa capacité à réaliser les choses, à faire. Donc ici, à réaliser le projet qu'il porte. C'est un chemin de réalisation et en même temps un chemin de santé pour nous. Et puis c'est quoi l'estime de soi ? C'est un rapport avec la valeur que l'on perçoit, sa propre valeur.
Est-ce qu'on on se sent digne d'être aimé ? Est-ce qu'on se traite soi-même comme on traite ses amis ? C'est des questions qui permettent de jauger en soi quelle estime de soi on a.
Tout à fait. la valeur qu'on se donne a aussi une grande importance sur les prix qu'on est capable de mettre à ses offres, surtout en question de service. Dans la question du service, quel est le prix que je vaux sur le marché, même si on sait qu'on ne vend pas la personne, mais il y a un gros enjeu sur fixer ses prix et être juste. Et puis également avec le syndrome de l'imposteur. Voilà, ça vient jouer plein de choses, l'estime de soi et le rapport à l'argent, la valeur, la réussite, tout ça. Et puis la conscience, on en entend beaucoup parler sans vraiment savoir de quoi on parle, en se disant de toute façon, moi, je suis bien conscient de ce que je fais, merci. Et du coup, je suis allée chercher la conscience de soi, qu'est-ce que c'est ? Et donc, ça fait généralement référence donc, à une prise de conscience. Donc, c'est immédiat, de soi-même, dans le moment présent. Et ça veut dire que ça comprend à la fois la conscience de nos pensées, sentiments, nos émotions, des comportements. Quand on dit comportement, c'est quelles sont nos croyances dans l'instant par rapport à ce qu'on vit et quel est notre processus de réponse qui est plus ou moins automatique et nos états physiques du moment. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Est-ce qu'on a mal quelque part, etc. Et donc, je vous invite, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, à aller voir le travail de Carl Rogers en particulier. Il y en a d'autres. Donc, tout ce qui a été posé pour nous à ce moment-là et qui est très important, c'est donc cette histoire de confiance, d'estime et de conscience de soi, ce savoir, autant effectivement dans l'équilibre personnel que l'équilibre financier, mais aussi du modèle économique, des statuts juridiques. Pour nous, on le rappelle, hein, mais l'entrepreneuriat durable, c'est autant un entrepreneur qu'un business qui dure dans le temps. Voilà, j'avais un exemple, je disais, on a des bébés en cours parce que dans les femmes qu'on a accompagnées et qu'on accompagne, il y a quand même trois qui sont tombées enceintes pendant le processus. Et une femme qui tombe enceinte dans ce contexte-là, mais comme toujours, hein, c'est toujours un appel à la vie, une ouverture et une confiance en le moment qui est vécu à ce moment-là. C'est un cadeau qui est offert et le projet d'entrepreneuriat, il peut tout à fait se composer avec et se lancer par la suite. Il n'y a pas d'urgence, en fait. Il y a un rythme juste à chaque chose. Et le trouver, et c'est plus essentiel que de faire une campagne marketing de masse dans un marché concurrentiel, voilà, si je veux pousser le trait un peu plus loin. Donc, la formation aussi, le passage par une mission en salariat ou un retour au salariat, y aller dans une autre dynamique pour prendre de l'expérience, pour prendre des compétences, pour contribuer d'une manière différente, c'est autant d'étapes positives dans un chemin d'entrepreneur, qu'il soit en interne ou pas. Les conditions, en fait, qui sont pas encore réunies à ce stade-là, cette étape de salariat peut être les bonnes conditions pour que ça se réalise plus tard, en fait. Et ça contribue justement à cet équilibre. Donc, il n'y a pas d'échec, mais plutôt la matérialisation des étapes nécessaires pour une vie plus épanouie. Et c'est la conscience également que ce projet peut changer en cours de route et en fonction de l'évolution de nos paramètres de vie, quoi. Donc, notre champ d'intervention, il est autant d'accompagner la création d'entreprises, mais pas que. Et je fais le lien parce que, en fait, on est dans le champ de l'encapacitation, où on entend beaucoup la notion d'empowerment en anglais, ou d'autonomisation. Et puis toi tu parlais, Émilie, de pouvoir d'agir. Alors moi, j'ai tendance à dire puissance d'agir, mais peu importe. Pouvoir d'agir, comment on donne la capacité, de la force, de l'efficacité des personnes. Et si on va un petit peu dans la définition de cette encapacitation, ou de cette pouvoir d'agir, je ne vais pas dire puissance, pouvoir d'agir, on trouve que c'est un processus par lequel des individus ou des groupes acquièrent la capacité d'agir sur les décisions qui les concernent, de sortir d'une situation de dépendance ou de précarité. Et quand on entend dépendance, ça peut être aussi la dépendance au travail ou au goût du pouvoir, voire un rapport de domination, Dixit, Émilie, tout à l'heure. Et puis, de renforcer leur pouvoir d'action sur leur environnement social, économique ou politique. Donc, ça va avec la notion de pouvoir. Et j'ai pris la référence de Joe Roland. Vous aurez toujours les références en bas de l'émission, hein, dans le podcast, sur la page courant porteur. C'est du pouvoir sur, du pouvoir de, du pouvoir personnel et du pouvoir avec. Et jouer avec ces mots-là, et ce que ça veut dire pour nous, Je trouve ça assez enseignant, en fait. Je trouvais une synthèse également qui dit que ce empowerment, ce pouvoir d'agir, c'est à la fois un objectif, donc développer son pouvoir d'agir, et un processus, donc apprentissage, conscientisation, participation. Et ce processus vise à l'émancipation individuelle et collective, avec des applications dans de nombreux domaines qui peuvent être la santé, l'éducation, le management et l'action sociale. Est-ce que tu as un retour, Émilie ? Ça te parle ?
Oh, ça me parle beaucoup. Oui, bah, le pouvoir d'agir, c'est complètement l'ADN des centres sociaux. Ça fait d'ailleurs partie de la charte nationale et ça fait plusieurs années déjà hein, que les centres sociaux travaillent là-dessus et se forment et accompagnent les gens. Mais ça a été renouvelé encore dans notre charte nationale, dans nos chartes départementales. Donc c'est vraiment un acte fondateur. De toute manière, les centres sociaux, c'est des espaces, des structures qui sont portées par des habitants et des habitantes. Donc déjà, en soi, c'est déjà une logique complètement pouvoir d'agir. Et nous, chez nous, on s'appuie beaucoup sur la définition de Yann Le Bossé. Donc, je ne vais pas vous la citer parce qu'elle correspond à peu près à celle que tu as donnée. Mais voilà, j'invite les auditeurs et les auditrices à regarder ce qu'il a fait. En tout cas, c'est vraiment de créer les conditions pour que les gens se sentent légitimes d'agir sur leur vie ou sur leur collectif ou sur leur territoire ou sur leur pays, ou etc. etc. Voilà, et donc...
Ça m'interpelle.
Exactement, ça interpelle. Non, mais nous, c'est vraiment le quotidien du centre social, en fait, hein, d'accompagner les gens à se sentir à leur place, se sentir capable. Et j'ai plein d'idées de parcours, là, de personnes que je vois autour de moi qui ont vraiment gagné là, en ce sens-là, quoi.
Tu m'as parlé d'un exemple.
Oui, tout à fait. Un exemple, je pense, le plus significatif, je pense à une dame âgée qu'on a rencontrée, nous, quand on fait de l'allée verte, c'est-à-dire quand on sort de notre centre, on va dans la rue, dans le village, on va rencontrer les gens, discuter, boire un café, leur demander comment ils vont, et tout ça dans l'objectif de créer du lien. Cette dame venait d'arriver sur le territoire, connaissait personne, fragile socialement. Du coup, elle est venue, elle nous a suivis jusqu'au centre, elle a commencé à participer, enfin, à bénéficier du petit marché solidaire qui est organisé par une autre association qui vient au centre social, qui s'appelle Pour une alimentation solidaire, qui fait un super travail. Et donc, elle a commencé à bénéficier de ça, et petit à petit, avec l'accompagnement, en connaissant les collègues, etc., elle a commencé à participer aux bulles de café des seniors. C'est un groupe où les gens viennent boire un café, donner leurs idées, discuter. Et participer petit à petit aux sorties, aux ateliers d'écriture, si je ne me trompe pas. Plutôt aux actions gratuites, globalement, puisqu'elle n'avait pas beaucoup de moyens. Et après, elle a proposé, bah, tiens, si on faisait un atelier créatif, et si on se retrouvait pour lire des livres ensemble, et si moi, je n'arrive pas bien à marcher, et si on s'organisait des balades, rien qu'entre nous. Et petit à petit, elle a pris confiance et un jour, lors d'une de nos assemblées générales très rigolotes, comme vous le savez, on ne s'y attendait pas. Elle a dit, mais moi, je veux participer, en fait, je veux faire partie du conseil d'administration. Et du coup, elle a été élue et elle fait partie du conseil d'administration. Donc voilà, c'est un super, super parcours exemplaire pour
Magnifique.
Moi.
Magnifique. Ouais. Ouais, c'est clair. Bravo. Comme quoi, en plus, on est capable à tout âge.
À tout âge. Et...
On a du pouvoir d'agir à tout âge.
Ouais. Il y a vraiment, du coup, au cœur des centres sociaux, mais également, finalement, dans les fondamentaux de son essence, cette notion d'éducation populaire, et dont c'est précisément l'objet. Et ce que j'aime bien... c'est que tu ne donnes pas du pouvoir, mais tu offres les conditions pour.
Exactement.
Il y a quelque chose qui est peut-être, enfin, je ne sais pas si c'est plus juste, mais en tout cas qui donne plus de, encore une fois, finalement, plus de marge de manœuvre de la personne, de s'en saisir ou pas.
Tout à fait. Bah, nous, dans notre projet social, un des axes, c'est accueillir les idées, colères et rêves des habitants et des habitantes et les accompagner. Donc c'est vraiment de partir de tout ça pour faire quelque chose et puis pour changer ce qui ne convient pas. Accueillir les idées, colères et rêves des habitants et des habitantes et les accompagner.
Idées, colères
et rêves.
Et rêves.
Voilà. Tout
donc
ça.
Trois moteurs. ouais, quelque part.
C'est ça.
Les trois moments qu'il faut cueillir pour mettre en capacité, donner de la capacité. Super.
Ça me fait penser à ce que nous, dans le cadre de notre programme, on demande aussi, on fait dessiner sur les rêves des personnes qu'on accompagne, de manière à pouvoir les matérialiser. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui est très proche dans notre dans nos approches et voilà, et nos idéaux finalement.
Oui, c'est partir aussi, c'est vrai, hein, c'est partir de ce qu'on est fondamentalement et de ce qui nous anime. Donc vous pour l'entrepreneuriat, nous pour la vie, je dirais, mais effectivement c'est assez proche.
Pour que tout le monde se représente bien aussi les choses, moi j'aime bien cette image de donner un poisson ou d'apprendre à pêcher. L'incapacitation, le pouvoir d'agir, c'est effectivement d'apprendre à pêcher.
Tout à fait.
Pour moi, une notion, ou en tout cas un lien avec le pouvoir d'agir, revient à la manière dont on décide et dont on s'organise dans un collectif. Et donc sur les missions précédentes, du coup, j'abordais les notions de gouvernance partagée, qui sont un lieu pour tendre vers gagner en puissance d'agir. Donc, ça parle de leadership, ça parle de ma place dans un collectif, ça parle de notions d'équivalence, si justement on veut sortir de dimensions ou de, voilà, de pouvoirs sur trop pyramidaux, pour aller sur comment chacun, chacune, peut avoir les rênes et l'appui du collectif pour aller réaliser ses rêves et pour incarner ses valeurs.
C'est marrant, tu viens de dire puissance d'agir. Tout à l'heure, on discutait, mais pourquoi tu dis puissance plutôt que pouvoir ? Et effectivement, tu viens de dire le pourquoi, dans ma croyance, en tout cas derrière, souvent dans le mot pouvoir, il y a cette histoire de domination, d'abus, tu vois. Alors que puissance, il y a quelque chose de fort, voilà, de plutôt intérieur qui se dégage pour moi. Hein. Voilà ce que j'y mets derrière. Merci d'avoir utilisé la puissance d'agir. On avait envie de vous partager trois clés qu'on a également dans l'accompagnement pour aider à cette puissance d'agir. C'est comme ça qu'on les a appelées. Trois clés pour activer notre puissance d'agir. Donc la première, elle touche au processus émotionnel. On l'a appelée la boussole émotionnelle. Et encore une fois, je démarre par cette définition qui nous touche, qui nous tient à cœur, de la santé pour l'Organisation mondiale de la santé, qui est un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et du coup, on pointe à cet endroit-là comment les émotions sont de véritables indicateurs de notre état, de nos limites et des atouts pour notre santé globale. Et donc, on a un schéma. Alors déjà, on dit que si cet indicateur, notre boussole intérieure pointe vers de la joie ou quelque chose de l'ordre de l'amour aussi, quelque chose de choses qu'on aime, forcément, ça pointe dans la bonne direction. Des fois, quand c'est trop serré et il n'y a pas de joie à cet endroit-là, c'est l'endroit où ça serre le moins qui est la bonne direction. Et on a un schéma, en fait, qui représente, en fait, par des couleurs, comment, en fait, quand on est dans la colère, dans la peur, dans la jalousie, dans la vengeance, on est sur des choses un peu rouges, qui tendent, qui sont compliquées à l'intérieur. Voilà, tu parlais de la colère comme moteur. La colère, quand elle n'est pas utilisée comme moteur de vie, de créativité, en fait, elle est source de tension, voire bien pire. Et donc, à l'autre opposé de cette spirale des émotions, on a une couleur un peu plus bleue, joyeuse, en tout cas, voire même violette, où on va retrouver la joie, la connaissance, l'autonomisation, justement, la passion, toutes ces choses-là. Donc, c'est un schéma assez simple qui permet de penser pour soi et d'avoir conscience que quand on est dans une colère rémanente, récurrente, c'est pas forcément bon pour soi, on le sait, mais en prendre conscience par ce schéma, c'est un moyen pour nous aussi de dire l'émotion qu'on porte en soi et qu'on va nourrir, elle est hyper importante pour notre épanouissement et pour notre capacité à agir. Et ce qu'on ressent, en fait, c'est un indicateur du besoin qu'on a.
Et à agir, parce que finalement, on pourrait se dire aussi que la colère, la peur, quand on trouve un ennemi commun, voilà, c'est aussi des éléments qui vont nous mettre en action. Mais il y a un endroit où la puissance d'agir, on veut qu'elle soit aussi au service de nos valeurs, au service de la joie, de la paix. Donc faut, cette boussole intérieure de ces émotions peut nous aider à discerner ce qui est bon.
Tellement, c'est vrai que l'énergie de la colère dans le combat contre... je peux parler de mon expérience, mais j'étais en combat contre l'injustice. À un moment donné, je me suis dit, je vais combattre pour la justice. Et puis jusqu'au moment où je me suis dit, mais pourquoi je combats en fait? Pourquoi j'ai ce moteur de colère permanente? Ça me fait pas du bien en fait. Et donc je me suis dit, je vais mettre à agir pour. Voilà, c'est un peu ça que ça veut dire aussi. Deuxième clé, tu veux
oui, Stéphane Covey qui nous inspire un autre modèle qui parle de cercle d'influence. Et donc il y a un schéma assez simple, 3 cercles concentriques. Et la zone de... centrale, elle s'appelle la zone le cercle de contrôle, et c'est l'endroit où nous sommes maîtres de nos décisions, de nos actes. Donc c'est les endroits où on peut agir, quelque part. Le cercle d'après, c'est le cercle d'influence sur lequel on n'a pas de contrôle, mais qu'on peut exercer, sur lequel on peut exercer une certaine influence. Nos proches, notre niche professionnelle, peut-être notre quartier, voilà. Et ensuite, un cercle bien plus vaste, qu'il nomme, très justement, cercle de préoccupation. Cette zone sur laquelle nous n'avons pas d'action ou même ni même d'influence directe. Et c'est pourtant un endroit où beaucoup d'entre nous portent une énergie ou une charge mentale assez forte. Voilà. Et voilà, Stéphane Covey prétend que les personnes qui sont efficaces pensent et agissent principalement dans leur cercle d'influence. Et justement, c'est une manière de recentrer l'énergie. Et la nature de l'énergie est alors positive, puisque c'est des endroits où ils peuvent agir, dans sa zone d'action.
Alors effectivement, cercle d'influence et cercle de concentration, là où ils font focus, là où ils ont du pouvoir. Donc cercle d'influence, mais également, évidemment, là où on a le plus de capacité, c'est sur notre cercle de contrôle. C'est, on est la première personne sur laquelle on peut agir.
Bien sûr.
Et on sait, dans la communication, dans le dialogue, à quel point entre ce qu'on dit, l'intention qu'on a, ce qui est perçu et comment c'est transformé, y a beaucoup de déperditions. Et je crois que c'est 20% en fait l'influence qu'on a sur les autres. Voilà, donc Stephen Covey. Et oui, il disait également que je crois qu'on... On passe 90% de notre temps dans nos préoccupations, là où on n'a aucune incidence, aucune action possible, et ça donne un grand sentiment d'impuissance. Voilà, j'arrête avec ça. Il nous reste 5 minutes, je crois. Mmh. Et pour partager la dernière clé et conclure, alors cette troisième clé, on l'a appelée du concept de soi au potentiel de soi. Ça vient à l'origine d'un travail de chercheurs canadiens. C'est toute une équipe. Bourion et Filion, encore une fois, on mettra des refs, j'allais dire en bas de page, mais vous m'avez compris. Et donc, on a 3 espaces de perception. Oui, donc le travail au départ, c'est sur les représentations entrepreneuriales. Et donc, à nouveau 3 cercles, on va croire qu'on n'aime que les cercles. Le premier au centre, c'est le concept de soi. Le concept de soi, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je perçois de moi? Comment moi, je me perçois? Le deuxième cercle, l'espace de soi, c'est ce qu'on imagine pouvoir devenir, c'est ce qu'on imagine être notre potentiel. Et en fait, en réalité, notre vrai potentiel, c'est le troisième cercle qui est beaucoup plus large, qui est tout ce que on imagine, enfin tout ce que on n'est pas capable d'imaginer, mais qui existe dans la vie réelle, parce qu'il n'y a pas un seul monde, il y a des mondes dans les mondes dans les mondes, et donc notre vrai potentiel d'être, il est bien au-delà de ce qu'on est capable de concevoir. Et juste pour terminer, notre cadre de référence, notre fameux référentiel de représentation, ce qu'on est capable de concevoir, d'imaginer comme possible, et ben c'est concept de soi plus espace de soi. Or, ce n'est pas du tout la réalité. Voilà.
La réalité est bien plus dense, bien plus large et bien plus...
Vaste.
Vaste et créative. Si on accepte de dire, ah ben je ne sais pas tout, il y a peut-être une manière de switcher sur d'autres réalités.
Merci de votre écoute. Vous retrouverez toutes les références, donc le site d'Archipel, bientôt le site d'Interpel. Merci Émilie.
Merci à vous et j'en profite pour saluer et remercier toute la merveilleuse équipe du Centre socioculturel Archipel, bénévoles, salariés, administrateurs, administratrices, voilà, qui font un incroyable travail. Et merci.
Et tes deux magnifiques comparses.
Oui.
Merci beaucoup, Émilie.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Vous venez d'écouter Courant Porteur, initiative et résilience d'un territoire.
Une émission mensuelle pour faire émerger un mieux vivre ensemble résilient dans le Val-de-Saône. Vous pouvez retrouver l'émission et ses références sur radio-calade.fr.
Et pour mieux nous connaître, rendez-vous sur notre site saonescence.fr. SAONE2SENCE.